Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Jacques-Yves Molima.
Journée internationale contre la corruption, ce vendredi 9 décembre. À l'occasion, la ministre congolaise de la Justice, Rose Mutombo, vous allez l'entendre, a décrit dans son message adressé à la nation congolaise l'impact négatif des méfaits de la corruption sur le développement, la sécurité, la paix et la justice. Et puis, les efforts sont consentis pour amener les communautés katangaises et kassaïennes à parler le même langage dans le Haut-Katanga. Le gouverneur a réuni les représentants de ces deux communautés hier jeudi à Lubumbashi. Enfin, notre invité dans cette édition du journal, c'est Taylor Lopokompela, directeur provincial de l'OSEP, Observatoire de surveillance des corruptions et de l'éthique professionnelle. Son institution a présenté à la presse un tableau sombre de la pénétration de la corruption dans la province de l'Équateur. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Unir le monde contre la corruption pour le développement et la paix, c'est le thème de la célébration ce vendredi 9 décembre de la Journée internationale de la lutte contre la corruption, en prélude à d'importantes activités prévues avec l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption. La ministre de la Justice décrit dans son message adressé à la nation congolaise l'impact négatif des méfaits de la corruption sur le développement, la sécurité, la paix et la justice. Rose Mutombo est au micro de Jeff Ngoy.
S'il est vrai que la corruption est un phénomène universel, il n'en demeure pas moins vrai que celle-ci touche de façon particulière les pays africains. Elle a un impact négatif sur les différents secteurs de la vie d'un pays et constitue un obstacle de taille pour le développement. La corruption, on ne le dira jamais assez, favorise les détournements des fonds destinés aux services essentiels comme les soins de santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable, l'assainissement et les logements et empêche ainsi l'État de garantir aux plus vulnérables un meilleur accès aux services sociaux de base, favorisant de ce fait l'exclusion, source potentielle d'instabilité et de conflits. Elle alimente les conflits et entrave les processus de paix, sapant l'état des droits en aggravant la pauvreté, en facilitant l'utilisation illicite des ressources et en assurant le financement des conflits armés.
Parlant toujours de la Journée mondiale de lutte contre la corruption, à l'Équateur, l'Observatoire de surveillance des corruptions et de l'éthique professionnelle vient de présenter à la presse un tableau sombre de la pénétration de la corruption, ce dans tous les secteurs de la vie nationale. Suivant une enquête réalisée dans la ville de Mbandaka, la population a classifié les secteurs les plus corrompus de la province. Au top des trois premiers secteurs viennent les régies financières, l'éducation et la santé publique. Vient ensuite la justice, les forces de l'ordre, les structures de gestion des projets développement. Le directeur provincial de l'OSEP Équateur, Taylor Lopokompela, a annoncé la triste réalité au micro de Paul-Richard Malengela.
Il était question d'évaluer les taux de pénétration de la corruption dans les secteurs de la vie nationale. Et sincèrement, je dois vous avouer qu'aucun secteur n'avait été épargné. En termes de classement, les enquêtés se sont exprimés tout haut et sans embâge, en disant qu'il y a des antivaleurs auprès des régies financières. Au lieu que l'argent pouvait bien raflouer les comptes du trésor public, et cela s'est fait au vu et au su des commerces des contemporains, et ils ne savent à quel sein se vouer. Après les régies financières, on parle de l'enseignement au niveau primaire et secondaire, et même à l'université. Il y a également le secteur de santé qui a été visé par les enquêteurs. Le détournement des projets alloués pour la province qui ne sont pas exécutés, et ce sont des cas frappants. Il y a aussi au niveau de la justice, il suffit que la personne présumée coupable, inculpée, arrêtée, demain paye le frais pour la liberté provisoire et directement on le voit demain il est dehors. Ce sont des cas frappants.
Taylor Lopokompela, directeur provincial de l'OSEP, est notre invité dans cette édition du journal. À Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, les appels à la haine tribale et à la violence entre les communautés katangaises et kassaïennes distillées dans les réseaux sociaux inquiètent plus d'une personne. Le gouverneur du Haut-Katanga a réuni les membres de ces deux communautés pour leur demander de s'investir afin que la paix et la cohabitation pacifique reviennent. Jean Gandou.
Pour plusieurs personnes, après la tenue de la table ronde entre les communautés du Grand Katanga et celle de l'espace Grand Kassai en avril dernier, une accalmie était observée. Mais depuis peu, la tension monte de nouveau avec des appels à la violence et à la haine tribale entre les membres de ces deux communautés. Et très souvent, ce sont les réseaux sociaux qui sont utilisés pour véhiculer ce genre de messages. La mort du prophète Jérémie Doxamonga à Lubumbashi, et dont les taximens moto seraient les auteurs, a contribué à exacerber la tension. À cela s'ajoutent les récents affrontements entre les jeunes de l'UDPS et ceux de l'UNAFE, qui ont causé la mort de deux personnes. Ces deux événements, auxquels se greffent aussi les dernières nominations dans la territoriale, ont aussi dégradé la situation. Toujours en quête de la paix, le gouverneur du Haut-Katanga s'est entretenu ce jeudi avec les représentants de la Fondation Katangaise et celui de la communauté kassaïenne. Jacques Kaboula leur a demandé de sensibiliser leurs membres respectifs pour que les deux communautés vivent en harmonie. Raphaël Moututa, le président de la Fondation Katangaise, a estimé que
la politique ne nous divise pas. Nous sommes un seul peuple et nous sommes des Congolais. Nous avons qu'un seul message, c'est un message de paix.
Chitundu Kayeye de la communauté kassaïenne a promis aussi d'en faire autant auprès de ses membres.
Donner des conseils, c'est notre devoir parce que nous sommes les responsables choisis par nos communautés. C'est nous qui devons tracter les autres et leur donner le bon chemin.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Autre nouvelle, en Ituri, les groupes armés qui ont participé au dialogue de Nairobi 3, dont la CODECO, FPIC et FRPI, réaffirment leurs engagements de poursuivre avec le processus de paix pour mettre définitivement fin au conflit armé dans cette province. Ils l'ont dit jeudi au cours d'un échange avec le gouverneur de province, le lieutenant-général Johnny Luboya, dans son cabinet. Tous souhaitent l'accélération du processus de DDRCS pour la pacification totale de cette province. Marcel Kizabiamungu.
Dans leur déclaration, les représentants des groupes armés de l'Ituri, signataires des actes d'engagement unilatéraux, restent engagés aux démarches de Nairobi. Pour le mouvement armé CODECO IRDPC, ses leaders se disent déterminés à soutenir les efforts de paix pour permettre aux milliers de déplacés dans les territoires de Djougou de retourner dans leur village. Bassa Zokpa, porte-parole de la CODECO.
La population doit vaquer librement. Allez aux occupations, nous sommes engagés pour la paix.
Et pour la FPIC, c'est un bon moment de construire l'Ituri, son porte-parole.
La FPIC est déterminée pour la paix et de bien gérer sa responsabilité. C'est le bon moment de construire notre pays.
Le processus de DDRCS doit être mis en place rapidement, insiste la FRPI. Son porte-parole, Mounobi.
Le gouvernement vraiment d'accélérer tous les programmes. Le DDRCS, d'ailleurs la FRPI, avait déjà lancé le désarmement à Karachi.
Ces leaders ont rejoint leur bastion ce vendredi matin pour relayer les conclusions de Nairobi 3. Bounia, Martial, Kizabiamungu, Radio Okapi.
Et puis en plus bref, dans le territoire de Beni, les forces conjointes FRDC-UPDF ont déjoué une attaque des rebelles ADF dans la nuit d'hier à ce vendredi à 2 km de la commune rurale de Boulongo dans le secteur de Rwenzori. Selon le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise du secteur de Rwenzori, Meleki Mulala, c'est vers 2h du matin que l'ennemi a tenté d'attaquer le centre de Boulongo. C'est grâce à la vigilance de la population qui a alerté les services de sécurité et que cette tentative d'incursion a échoué, ajoute-t-il. Depuis ce matin, indique notre source, les forces conjointes FRDC-UPDF sont à la poursuite de l'ennemi qui a pris la direction du parc national de Virunga. À l'ouest du pays, insécurité dans les territoires de Kwamout, en province du Maïndombé, où au moins 6 morts et un blessé sont enregistrés hier jeudi 8 décembre dans la matinée après une attaque des assaillants armés contre le village Kana situé à quelques kilomètres de la commune urbano-rurale de Maluku sur le fleuve Congo. D'après les députés nationaux élus de Kwamout qui livrent l'information, 3 civils et 3 militaires ont été tués et plusieurs maisons incendiées. Guy Moussomo plaide pour que des dispositions adéquates soient prises pour mettre fin à cette insécurité. Il a été joint par Irène Mbouma.
Vers 5h du matin, il y a quelques assaillants qui ont attaqué un canot par le port des marins et le bilan provisoire, 3 civils, 3 soldats et plus un capitaine blessé. 6 morts, un blessé. Je trouve que la gestion de ce côté-là est assez catastrophique. Alors il faut chercher des renforts ailleurs. Alors il faudrait que les militaires puissent très bien s'organiser pour que ce genre de choses ne puissent plus arriver. Oui, mais c'est à quelques kilomètres de Kinshasa, c'est-à-dire qu'il faudrait que nos autorités qui s'occupent de la sécurité puissent voir clair. C'est comme si elles prennent la situation à la légère. Vous allez voir que du côté de Kenge, ces gens-là sont allés tuer. Ici, non loin de Doumi, il y a eu des morts. Et on dit absolument rien. Mais le problème qui se passe à Kwamoto, à la porte de Kinshasa, c'est comme ici, on donne des moyens sur des pincettes. Et ça ne peut pas se passer comme ça. Nous plaidons auprès des autorités pour qu'ils puissent avoir un regard actif.
Et puis, en plus bref, notez que le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, a été reçu dans la matinée de ce vendredi 9 décembre par le pape François au Vatican. Les deux personnalités ont échangé notamment sur l'insécurité persistante et la crise humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette rencontre intervient au moment où 131 civils, au moins, ont été tués par les rebelles du M23 à Kishishe, dans le territoire de Rutshuru, au Nord Kivu. Selon une enquête préliminaire de BCNUDH et de la MONUSCO, rappelons également que le souverain pontife est attendu, sauf imprévu, du 31 janvier au 3 février prochain à Kinshasa. Dans la province du Maniema, l'ONG Hopewalks, entendez espoir de marché, une ONG internationale qui s'occupe du traitement des enfants en pied-botte, exhorte les parents qui ont des enfants qui souffrent de cette malformation de les amener au centre pour handicapés AMK pour leur traitement et prise en charge gratuit. Appel lancé hier jeudi par le coordonnateur casting de cette ONG internationale. Pour Vincent Semou, les pieds-bottes se soignent mieux et rapidement à l'âge de 0 à 2 ans. Florence Kizalunga, reportage.
Grâce à l'appui de l'ONG Hopewalks, les enfants en pied beau bénéficient actuellement des soins gratuits au centre pour handicapés AMCA de Kindu. Bernadette Biluta a un enfant de 3 ans qui vient de bénéficier de ces soins.
Mon fils était né avec les pieds beaux. Maintenant aussi au centre pour handicapés, on l'a traité. Maintenant, mon fils commence à bien marcher. Je dis merci au docteur pour cette assistance.
Les coordonnateurs du counseling Hopewalks demandent aux autres parents d'amener leurs enfants à temps au centre AMCA pour qu'ils bénéficient de ces soins gratuits. Vincent Semou.
Ici, au centre pour handicapés AMCA de Kindu, effectivement, les pieds beaux se soignent et le traitement est gratuit. De 0 à 2 ans, nous faisons la prise en charge gratuite. À plus de 2 ans, là, c'est la famille qui fait des arrangements avec la clinique pour traiter ce genre de cas. Alors, avec différentes sensibilisations, les mamans viennent avec leurs enfants et c'est comme ça que nous recevons vraiment beaucoup de mamans, telles que vous voyez ici à la clinique les jeudis. À toute la communauté, nous disons bien que c'est très important. Une fois on rencontre un cas de pied beau, n'hésitez pas de l'orienter dans les centres pour handicapés AMK pour la prise en charge gratuite.
Signalons que c'est depuis 2011 que le centre pour handicapés AMK s'occupe de ce type de soins. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Le cacao est un marché qui brasse des milliards d'euros. Pourtant, la grande majorité des 5 millions de producteurs, la plupart vivant en Afrique, n'arrivent pas à en vivre. Lors de la session extraordinaire de l'Organisation internationale du cacao, ICCO, qui s'est tenue à Montpellier en France ce jeudi 8 décembre, la création d'une bourse africaine du cacao a été évoquée comme une solution pour rééquilibrer le marché.
L'invité.
Comme annoncé, ce vendredi, c'est la journée internationale contre la corruption célébrée cette année sous le thème « Zéro corruption, 100% développement ». Le phénomène est taxé de pandémie. Il freine le développement mais aussi annule la dignité humaine. Notre invité à ce sujet, c'est le directeur provincial de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique au CEP Équateur. Taylor Lompokopela fait état des lieux de la corruption dans sa province. Il est donc notre invité dans cette édition journal. Il s'entretient avec Paul-Richard Malingela. Suivez.
Monsieur Taylor Lompoko, bonjour.
Bonjour, cher journaliste.
Quel est le bilan que vous faites aujourd'hui de la lutte contre la corruption dans la province de l'Équateur et des contraintes que vous avez pu rencontrer?
La lutte contre la corruption, c'est vraiment un processus. À notre niveau, nous avons des activités phares qui cadrent avec notre mission, notamment la sensibilisation, la moralisation des agents publics de l'État et autres personnes. Cela étant, nous sommes en train d'aller lentement et sûrement, parce qu'il va falloir d'abord commencer par la prévention, la sensibilisation, l'organisation des ateliers en vue de l'immersion des communs des mortels aux valeurs éthiques. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais aussi, nous essayons un peu de travailler avec les organisations des structures de la société civile. Et nous pensons que tous ensemble, la main dans la main, nous pouvons travailler en synergie pour l'aboutissement heureux de résultats que nous sommes en train de nous assigner.
Depuis que l'OCEP est opérationnel ici à l'Équateur, quels sont les cas les plus patents que vous avez déjà constatés sur le terrain?
Nous avons décrié des antivaleurs, surtout lors de la passation des examens d'État. Et cela étant, nous avons eu à organiser un atelier d'immersion de valeurs éthiques en faveur des inspecteurs, des experts de l'enseignement. Au finish, ces derniers avaient signé avec nous des actes d'engagement éthique. Nous avons eu également à organiser au cours des parades avec la police nationale congolaise. Autrefois, les gens disent qu'il y a pas mal de tracasseries et consorts. Et nous avons eu à nous retrouver avec des officiers de la police nationale congolaise, ici dans le chef-lieu de la province de l'Équateur. On avait eu ensemble à échanger et nous avons tous convergé que ça valait la peine qu'on puisse pourchasser les antivaleurs ici dans la ville de Mbandaka. Donc,
nous apprenons que vous avez quand même mené aussi une étude dans la ville de Mbandaka. Oui. Quels sont les secteurs le plus touchés par cette gangrène qui est la corruption?
Il était question d'évaluer les taux de pénétration de la corruption dans les secteurs de la vie nationale. Et sincèrement, je dois vous avouer qu'aucun secteur n'avait été épargné. En termes de classement, les enquêtés se sont exprimés tout haut et sans embâge en disant qu'il y a des antivaleurs auprès des régies financières. Au lieu que l'argent pouvait bien raflouer les comptes du trésor public, et cela s'est fait au vu et au su des commerces des contemporains et ne savent à quel sein se vouer. Après les régies financières, on parle de l'enseignement au niveau primaire et secondaire et même à l'université. Il y a également le secteur de santé qui a été visé par les enquêteurs. Le détournement des projets alloués pour la province qui ne sont pas exécutés. Et ce sont des cas frappants. Il y a aussi au niveau de la justice, il suffit que la personne présumée coupable, inculpée, arrêté, demain, on paye le frais pour la liberté provisoire et directement, on le voit demain, il est dehors. Ce sont des cas frappants.
Au regard de tout ce que vous venez de décrire, quelle est la stratégie phare que l'OCEP compte mettre en place pour changer la donne?
Au cours de cette occasion que vous nous donnez, nous voulons mettre à la disposition de nos auditeurs notre théorie phare, dite FAIS, Made in OCEP. C'est vraiment un sigle. F, c'est la famille, E, c'est l'école, S, c'est la société. Donc nous disons que la meilleure façon de combattre les antivaleurs et la corruption, ces combats pouvaient bien commencer au niveau de nos familles. C'est-à-dire que si nous, parents, nous comprenons que la corruption, ce n'est pas une bonne chose et que nous amenons ces principes à notre enfant qui est en train de grandir, l'enfant comprendra que pour que je devienne demain utile à la société, je dois éviter et pourchasser tout ce qui est antivaleur et tout ce qui est corruption. Donc c'est un peu ça, cette théorie. Nous sommes prêts à organiser des activités, des ateliers à tous les niveaux, dans les églises, dans les écoles, pour amener les gens à la meilleure compréhension de cette théorie de FAIS. Je crois que nous pourrons nous attendre à un meilleur résultat.
Voilà, complètement terminée cette édition du journal, mise en onde par Dieudonné Nyangassa. Merci à toute l'équipe rédactionnelle à travers toute la République, sous la coordination de Emmanuel Elamegi et la supervision de Pélé qui Pélamondo. Merci également à vous pour nous avoir suivis.